Alors, merci Bill et toute l'équipe. Quelle belle espérance un jour au ciel de voir Jésus face à face. Ça va être tout un festin, une louange d'adoration, de voir celui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Et notre texte pour ce matin, versets 31 et 32. Alors, Romains 8, 31 et 32. Et avant de le lire, j'aimerais simplement vous rafraîchir la mémoire pour vous dire où est-ce que nous nous en sommes rendus. Alors, nous sommes en train d'étudier ce merveilleux huitième chapitre de l'épître de Paul aux Romains, mais comme je l'ai appelé, un vrai festin et une vraie délice pour nos âmes. Et nous sommes arrivés maintenant à la conclusion. Paul, dans les 30 versets précédents, amasse argument après argument pour démontrer la sécurité absolue du croyant. Celui que Dieu a déclaré juste à cause de sa foi seule dans le sacrifice de Jésus-Christ seul, qui fait en sorte que maintenant, Dieu dit et les Écritures déclarent, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quelle bonne nouvelle et quelle preuve de la sécurité absolue que nous avons en Jésus-Christ. Et juste quand on pense que Paul a tout dit sur ce sujet, il explose littéralement dans un crescendo de louanges à propos de cette sécurité. Et ça, c'est le texte que nous avons devant nous ce matin, les versets 31 à 39. Et même quelques-uns ont intitulé cela « L'hymne à la sécurité du croyant ». Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce bonus? Parce qu'il y a développé dans le chapitre 8, argument après argument, qui nous montre justement que le croyant est sécure en Christ. Mais pourquoi ce bonus? Dans ces textes, mais Paul sait qu'il peut arriver des circonstances difficiles dans la vie, des souffrances tellement difficiles que notre foi pourrait être ébranlée et nous pourrions remettre en question justement notre sécurité. Et peut-être aussi nous pourrions être tentés d'écouter le conseil de Madame Job qui a dit à son mari, lui, quand il était dans les souffrances extrêmes, maudit, dur et mal. Vous savez, Israël à la mer Rouge est un exemple, bon exemple de cette leçon qu'il nous faut tous apprendre. Que Dieu est non seulement plus contre nous, et ça c'est notre état avant d'être sauvé, mais il faut aussi apprendre par expérience que Dieu est pour nous. Et ça fait toute une différence quand on a saisi cette vérité. Et juste pour vous donner un exemple, avec les enfants d'Israël, Dieu leur avait demandé justement de tuer l'agneau pascal, de prendre le sang, de l'appliquer sur la porte et sur les linteaux. Et comme vous le savez, ils ont été épargnés à cause du sang de l'agneau. Et ils savaient que Dieu n'était pas contre eux. Mais c'est seulement à la mer Rouge qu'ils ont appris que Dieu était pour eux. Quand Dieu a combattu pour eux, vous vous rappelez du contexte, ils sont coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon qui les poursuit. Ils sont extrêmement effrayés, ils sont ébranlés dans le froid. Et même ils ont dit à Moïse, « Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?» Ils commençaient à douter. Et la réponse de Moïse, mais j'aime cela, ne craignez rien, restez en place. Et regardez quoi? La délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous. Quelle assurance de leur sécurité. Et ce matin, si vous êtes sur le point de s'affaiblir dans votre foi parce que vous êtes en train de vivre des situations difficiles, une adversité, la réponse de Dieu pour vous ce matin, c'est Romains chapitre 8. On va lire nos textes, on va lire à partir du verset 28 pour le contexte. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et on peut dire Amen. Laissez-moi vous lire ce que John Piper a dit à propos de ce texte. Le but de Dieu pour nous dans ces versets, c'est de nous donner une sécurité inébranlable. Une sécurité émanant de Dieu, une sécurité acquise par le sang de Christ. Pour que nous puissions bien affronter les souffrances rencontrées sur le chemin de l'obéissance. Son but, c'est de nous donner une sécurité si profonde, si ferme, si inébranlable, si ancrée dans son amour pour nous, que dans les sept sortes de souffrances énumérées au verset 35, nous ne le maudirons pas, nous ne l'abandonnerons pas, nous ne le blâmerons pas, mais au contraire, nous nous confierons en lui, nous nous attacherons à lui et nous trouverons notre satisfaction en lui, même si nous perdons tout. Et là, John Piper va citer Job 1:21, où Job dit ceci, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors ce matin, j'aimerais voir avec vous trois aspects de l'amour de Dieu qui nous permettent de bien réagir dans l'adversité. Alors comment est-ce qu'on veut bien réagir alors dans l'adversité? Quand nous sommes dans la fournaise de l'épreuve. Et vous savez, Paul, au verset 35, a énuméré quelques-unes de ces quelques éléments de la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, etc. Comment bien réagir? Alors, dans un premier temps, il faut se rappeler que notre Dieu est pour nous, et cela à cause de son plan d'amour. À cause de son plan d'amour. Et nous avons cela dans les versets 28 à 30. Douglas a déjà traité ces textes en détail. Alors, je ferai seulement un résumé de l'enseignement qui se trouve. Dans le plan d'amour qui va nous sécuriser, Nous avons dans un premier temps la préscience de Dieu. Ça, c'est le verset 29a. Ce qu'il a connu d'avance. Ce texte nous dit que ceux avec lesquels Dieu, dans sa souveraineté, et même avant la fondation du monde, ceux avec lesquels Dieu a décidé d'entretenir une relation d'amour, d'intimité. Alors, tout de suite en partant, nous avons l'amour de Dieu qui est manifesté dans sa préscience, ce qu'il a connu d'avance, ceux avec lesquels il a décidé d'avance d'entretenir une relation d'intimité. Et la Bible utilise justement ce terme connu d'avance dans le sens que, comme vous avez dans Genèse et ailleurs, un homme qui connaît sa femme, cette intimité entre l'homme et la femme. Alors Dieu veut avoir une relation d'intimité et dans son plan d'amour, il y a la préscience de Dieu. Non seulement cela, nous avons aussi la prédestination. Ça, c'est au verset 29b. Alors, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quelle preuve d'amour! Que Dieu va prendre la chose la plus importante à ses yeux. C'est le Seigneur Jésus-Christ, l'homme par excellence. Il a dit, vous allez ressembler à mon Fils. Quel amour! Les pécheurs transformés maintenant pour ressembler à l'image de Christ qui est le Saint de Dieu. Et vous savez, il y a aussi des textes parallèles. Je voudrais vous lire juste deux textes parallèles qui va souligner ce que je viens de dire. Éphésiens 2:11 nous dit ceci, qu'en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, comment, selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Prédestinés, selon le plan de Dieu, le plan d'amour de Dieu, qui dit, je vous prédestine à être comme mon Fils. Et Éphésiens 2:5 nous dit ceci, que ce plan a été motivé par l'amour. Dieu nous a prédestinés, remarquez bien, dans son amour, à être ses enfants d'adoption. Est-ce que c'est étonnant que l'apôtre Jean va s'exclamer dans 1 Jean 3:1 comme suit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Et finalement, dans ce plan d'amour tellement merveilleux, nous avons la préscience de Dieu, nous avons la prédestination d'être comme le Fils, mais nous avons aussi la providence. Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Les mauvaises choses, aussi bien que les bonnes choses, Dieu, dans son amour, prend tout cela et dit, ça va être pour votre bien. Waouh, ça me dépasse. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, comment? Selon son dessein, selon son plan. Parce que Dieu a un plan, son plan c'est qu'on soit à l'image de son Fils. Alors notre salut n'était pas un accident, ce n'est pas le fruit d'hasard. Dieu a tout planifié cela de A à Z, dans les moindres détails et dans l'amour. Et c'est pourquoi nous sommes en sécurité. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui peut déjouer ce plan. J'aime beaucoup le texte de Philippiens 1:6 qui nous dit ceci, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, son plan d'amour, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et dans le même texte que nous avons lu ce matin, verset 30, Dieu va dire ceci, ceux qui a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce que Dieu commence, il termine. C'est son plan d'amour. Et nous sommes dans ce plan d'amour. Alors, cela nous amène alors maintenant à notre texte pour ce matin. Et pour les deux prochaines semaines, les versets 31 à 39. Et nous allons focaliser ce matin sur les versets 31 et 32. Et ici, Paul va poser une question tout à fait pertinente. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? On pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que cela veut dire ces choses? Qu'est-ce que Paul veut dire par ces choses? Les commentateurs ne sont pas d'accord là-dessus. Il y a quelques-uns qui pensent que cela remonte au chapitre 5, où Paul commence maintenant à nous donner toutes les bénédictions qui découlent de la justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir accès par cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quelques-uns pensent que oui, ça remonte jusqu'à là et Paul est en extase. Qu'est-ce qu'on va dire à propos de cela? Il y a d'autres qui pensent que peut-être ça remonte même jusqu'au 3.21, où Paul va commencer maintenant sa doctrine de la justification. Et maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Il y a d'autres qui pensent que ça pourrait être à partir du 17-18, où Paul parle justement de les souffrances du temps présent, ne saurait être comparé à la gloire à venir. Et même d'autres qui pensent aussi que ça pourrait être juste en se référant au verset 28 et 30 qui précède le verset 31, où est-ce que Paul il parle justement que nous avons été prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Qu'importe! La question, c'est que devant tant de vérités, on ne peut pas rester la bouche fermée. Il faut dire quelque chose. Et ça, c'est l'idée de Paul. Et surtout dans un contexte de souffrance intense, occasionné soit par Satan, soit par les hommes, soit par les circonstances, même par nos propres faiblesses, où est-ce qu'on pourrait être ébranlé dans notre foi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il faut dire? Mais la réponse est dans le verset 31b. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ou si vous préférez, puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ça, c'est la réponse définitive qui scelle la sécurité du croyant, sa sécurité passée, présente et future, et qui ferme la bouche, qui cloue le bec, si vous voulez, en bon québécois, de tout adversaire. Puisque Dieu est pour nous, dans toutes les circonstances de la vie, qui pourrait être contre nous? Et vous savez, cette vérité est tellement riche. Dieu est pour nous. Et on l'a pas seulement dans Romains chapitre 8, mais nous l'avons, l'Ancien Testament abonde en textes qui parle justement de cette vérité que Dieu est pour nous. Je vous en lis quelques-uns, pas besoin d'y tourner. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 46, 2. Dieu est pour nous. Un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 56, 10, « Mes ennemis reculent. Au jour où je crie, je sais, ça c'est très important, je sais que Dieu est pour moi. » Et un dernier, Psaume 118, 6, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. » Voyez-vous, pour moi, pour nous, pour moi, Dieu est pour nous. J'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous savez que Dieu est pour vous? Et si vous le savez, vous êtes vraiment son enfant, savez-vous que vous êtes sécure présentement et éternellement dans son amour? Et rien, absolument rien ne pourra vous séparer de cet amour. Alors, comment bien réagir dans l'adversité? Rappelez-vous le plan de Dieu. Et deuxièmement, rappelez-vous ce que j'appelle la preuve d'amour de Dieu. Notre salut a commencé dans le plan d'amour de Dieu, la préscience, la prédestination, la providence. Et présentement, maintenant, nous sommes sécurs dans l'amour de Dieu à cause, justement, de la preuve d'amour. Et c'est ce que Paul veut donner à ses lecteurs, de bien saisir que Dieu nous a donné une preuve irréfutable de son amour pour nous qui devrait nous garder, justement, dans l'adversité. La preuve de son amour. Regardez votre texte, si vous voulez, au verset 32. « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Dieu n'a pas refusé de sacrifier son fils pour nous. Et quel est l'argument de Paul ici? Paul est en train de dire que si Dieu était capable de remédier notre plus grande problématique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était avant d'être sauvé? C'était la menace de la séparation éternelle, de la mort éternelle à cause de nos péchés. Et si Dieu était capable de trouver une solution pour cela et à régler définitivement notre problème justement de péché, par la doctrine de la justification, par la foi en Jésus-Christ seul. Mais son argument, c'est que si Dieu, qui est le plus grand, a réglé notre problématique la plus grande, il est certainement capable de régler des problématiques moins grandes qui peuvent nous arriver des sources qui sont moins grandes que lui. Si Dieu était capable, Dieu le plus grand, qui est pour nous, était capable de régler notre plus grand problème, notre plus grande problématique, il est certainement capable de régler des choses de moindre importance qui viennent des sources, que ce soit anges, démons, comme Paul il énumère. N'importe quoi dans la vie qui est moins grand que Dieu, il est certainement capable. Qui, si Dieu est pour nous, qui sera contre eux? Et c'est ce qu'il va développer dans le verset 33 à 39. Mais on va rester ce matin sur le verset 31 et 32. Dieu répond nous, il a prouvé en donnant son Fils pour nous. J'aime beaucoup le texte en Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La preuve d'amour, Dieu a sacrifié son Fils pour nous. J'aimerais faire une parallèle ici avec Genèse chapitre 22, parce qu'il y a une parallèle ici jusqu'à un certain point. Pas besoin d'y tourner, mais vous allez vous rappeler l'histoire d'Abraham, où Dieu va lui dire, « Prends ton fils Isaac, ton unique, celui que tu aimes, et va-t'en au pays de, justement, de Morija, puis il va l'offrir en holocauste. » Et vous connaissez la suite, Abraham, il va partir de bon matin, et il part pour la montagne, il va ériger un autel, il va lier son fils, il met son fils sur l'autel, et il prend le couteau pour l'égorger. Et jusqu'à là, ça ressemble à ce qui est arrivé avec Dieu et son fils Jésus-Christ. Mais Dieu va arrêter Abraham. Et on va trouver un substitut, il y a un bélier qui est retenu par les cornes, et Abraham va prendre le bélier, il va le sacrifier à la place de son fils. Mais pour le Christ, il n'y a pas de substitut. La Bible nous dit que Christ est mort. Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, verset 3. Pourquoi j'ai fait référence à ce texte dans Genèse? À cause de deux raisons qui vont nous aider à bien comprendre qu'est-ce qui se passe ici dans Romains chapitre 8, 31 et 32. Dans Genèse 22, 2, Dieu va dire à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » J'aimerais que vous remarquiez bien cela. « Celui que tu aimes, ton fils, unique, mais le fils que tu aimes. Et dans Genèse 22, 16, il va dire à Abraham, parce que tu ne m'as pas refusé, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, si on transpose cela maintenant dans Romains chapitre 8, au verset 32, on pourrait lire le texte maintenant comme suit. Lui, Dieu, qui n'a pas refusé, qui ne nous a pas refusé son Fils, son unique, celui qu'il aimait, mais qu'il a livré pour nous tous. Ça fait toute la différence. Dans l'adversité, dans les souffrances qui cherchent à ébranler notre foi, nous pouvons crier à plein poumon, je sais que Dieu est pour moi parce que mon Dieu d'amour a sacrifié le Fils de son amour pour moi. Pas seulement son Fils, il a sacrifié le Fils de son amour, le Fils qu'il aimait pour moi. Et c'est ce que nous allons considérer dans les moments qui suivent, le Fils de son amour et le sacrifice d'amour que Dieu a fait pour nous. Juste vous lire quelques textes pour vous démontrer justement cette relation d'amour qui existait entre le Père et le Fils. À Matthieu 3, 17, le Père part du ciel, il va dire, celui-ci est mon Fils, quoi? Bien aimé. Jean 5, 20, Jésus va dire, le Père aime le Fils. Jean 17, 23, dans la prière sacerdotale, Jésus, en priant, va dire ceci, que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Colossiens 1, 13 nous dit ceci, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jésus, le Fils que Dieu n'a pas épargné, qui ne nous a pas refusé, c'est le Fils que Dieu aime. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que le fait que Dieu nous a donné son Fils, qu'il aimait, devrait être pour nous un ancre, un appui, une assurance ferme et sûre, même au milieu des tempêtes de la vie? Et la réponse est, c'est parce qu'il a sacrifié pour nous ce qu'il aimait. C'est facile de sacrifier ce qu'on n'aime pas. Ça ne dérange pas. Mais quand on fait un sacrifice de quelque chose qui est précieux à nos yeux, quelque chose qu'on aime, ça, c'est une grosse différence. Et j'aimerais juste vous donner trois choses que Dieu a sacrifiées pour nous quand il a sacrifié son Fils. Trois choses s'il était possible, aurait pu motiver Dieu à épargner son Fils. Trois choses qu'il trouvait chez le Fils qui auraient pu le pousser à dire, « Je ne peux pas faire cela. Le prix est trop élevé. » Alors, premièrement, Dieu a sacrifié le plaisir qu'il trouvait dans son Fils. Quand il a sacrifié le Fils de son amour, le Fils qu'il aimait, il a sacrifié le plaisir qu'il trouvait dans son Fils. On a déjà cité Matthieu 3, 17. Jésus va, le Père va dire du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais le texte n'arrête pas là. En qui je trouve tout mon plaisir. Ésaïe 42, 1, même contexte. Le Père parle de son serviteur. Il va dire ceci, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Dans Jean 8, 29, Jésus va dire en parlant du pain, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et j'aimerais que vous essayiez de saisir que le Fils était une source de plaisir, de pur délice pour le cœur du Père. Quel contraste! Quel contraste avec d'autres fils. Par exemple, les enfants d'Israël, cette nation que Dieu avait choisie. On a encore là la notion d'élection, que Dieu aimait aussi. Dans Deutéronome, il dit, l'Éternel vous a choisi. Non parce que vous surpassez en nombre les autres nations, mais parce que l'Éternel vous aime. Et pourtant, ce peuple-là, dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont provoqué l'Éternel, ils se sont révoltés contre lui. Le texte nous dit, Dieu était irrité. Et si nous sommes honnêtes ce matin, il faut admettre aussi que malheureusement, trop souvent, nous ressemblons aux enfants d'Israël. On n'est pas une source de plaisir pour le cœur de Dieu à cause de nos attitudes. Mais le Fils bien-aimé, le seul, était une source de plaisir continuel pour Dieu. Et qu'est-ce qui se passe sur la croix? Quand le Fils est sacrifié pour nos péchés, le Fils de Dieu qui jouissait toujours de la faveur divine et qui aussi trouvait son plaisir dans le Père et dans lequel le Père trouvait son plaisir, il va être exposé maintenant à la colère de Dieu. Quel sacrifice, quel échange. Vous savez, Isaïe nous dit que oui, qu'il n'y a plus à l'Éternel de briser par la souffrance, mais à la croix, toute la fureur et toute la colère du Père contre le péché tombe sur la tête du Fils. Isaïe 53, 4 nous dit ceci, nous l'avons considéré comme puni, frappé. Frappé de qui? Frappé de Dieu et humilié. Et le verset 5 nous dit ceci, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quel échange! Dieu va sacrifier le plaisir qu'il trouve dans son Fils et il va l'exposer à sa colère. Et ça, c'était un prix extrêmement élevé à payer. Deuxièmement, Dieu aussi a sacrifié la gloire qui se trouvait chez le Fils. Dieu a sacrifié la gloire qui se trouvait chez le Fils. Hébreux 1, 3 nous dit ceci, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Et Jean 1, 14 nous dit que la parole, le Fils, a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme le Fils unique venu du Père. Et ça, c'est une autre chose qu'il faut saisir. La gloire de Dieu resplendit sur la face de Christ. Et la chose que Dieu aime le plus dans tout l'univers, c'est sa gloire. Parce que sa gloire est un reflet de lui-même, ses attributs. Quelqu'un a bien dit que Dieu est l'être le plus narcissique de tout l'univers. Toutes ses perfections, il les voyait dans son Fils. Alors, c'est tout à fait évident et normal qu'il aimait le Fils. Parce que Dieu s'aime lui-même. Il est le seul être parfait. Et malgré cela, par amour pour nous, il va permettre que son Fils, le reflet de sa gloire, il va permettre que son Fils subisse la honte. Crucifié comme un brigand, la moquerie, revêtu de pourpre couronnée d'épines, l'humiliation, les hommes ont craché dans son visage, flagellé, finalement la mort. Après 6 longues heures de souffrance et d'agonie, le Fils baisse la tête et remet son esprit entre les mains du Père. On dit souvent, oui, Dieu a été glorifié dans la mort de son Fils. Et ça, c'est vrai, mais le Fils a été humilié. Le Fils a été humilié. Et sur la croix, il n'y avait rien de glorieux. Méprisé, rejeté, l'ignominie. Dans Psaume 22, il va dire ceci, « Je suis un ver et non un homme, la probe des hommes et le méprisé du peuple. » Et ça a dû faire mal à Dieu de voir justement ce Fils qui était le reflet de sa gloire, couvert de honte et de péché, d'humiliation. quel échange et quel sacrifice. Et finalement, Dieu a sacrifié son intimité. Cette intimité qu'il avait avec le Fils, juste deux textes, Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. » Il y avait toujours cette communion intime entre le Père et le Fils. Jamais, jamais un nombre de désaccords, de disputes, rien absolument. Quel contraste avec nous, même dans la famille de Dieu. Combien souvent il y a des frictions entre frères et sœurs, et je m'inclus là-dedans. Et combien de fois il faut aller vers l'autre si on est fautif et demander pardon, s'humilier et progresser dans la voie de la sanctification. Mais avec le Père et le Fils, il n'y avait rien. Les deux sont un. Et quelle intimité, quelle communion entre le Père et le Fils. Et à la croix, cette relation d'intimité a été brisée. La communion a été brisée. Et je vous donne juste un exemple de cela. Psaume 22, vous connaissez le texte, psaume messianique. Jésus va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La séparation. Pourquoi t'éloignes-tu sans écouter mes plaintes? La sourde oreille. Je crie le jour et tu ne réponds pas. Le silence. Ne sera jamais capable de sonder la profondeur des souffrances du Fils, ni la profondeur de la douleur que le Père a éprouvée. Mais quel témoignage de la profondeur de son amour pour nous. Pour nous. Ça avait dur, aurait pu dire, ça me fera trop mal de déverser toute ma colère sur lui. Ça me fera trop mal de voir les hommes me maltraiter ainsi. Ou encore, ça me fera trop mal de l'entendre crier ainsi dans ses souffrances. Que dit le texte ce matin? Lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Qui ne nous a pas refusé le Fils qu'il aimait. Et quelle preuve d'amour! Quelle force! Quelle force! Pour vous et pour moi, qui semble sauvé, quelle force pour tenir bon dans l'adversité. Et quand Satan nous souffle dans l'oreille, où était ton Dieu? Quand une telle chose est arrivée, je peux lui dire à la même place qu'il était quand son Fils est mort pour moi sur la croix. Parce que ça, c'est la preuve de son amour. Et il ne nous a pas refusé son Fils, mais son Fils qu'il aimait. Et il s'est privé des choses pour vous et pour moi. Et ça, c'est ce qui tient si dur est pour nous. L'apôtre Paul dit, qui sera contre nous? Ce matin, je termine avec ceci. Si vous êtes ici, vous ne connaissez pas le Christ. Vous savez, la Bible dit que vous êtes exposé à la colère de Dieu. Ça, c'est la réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ, comme nous avons vu ce matin, a subi des châtiments. Et Dieu peut offrir maintenant le pardon des péchés. N'est-ce pas merveilleux? Quel échange! Dieu peut gracier le pécheur repentant parce que Jésus-Christ a subi la punition de nos péchés à la croix. Alors, si vous ne connaissez pas le Christ ce matin, je vous invite justement de régler cela avant qu'il ne soit trop tard. Quelle joie! Quelle force pour nous de savoir que nous sommes en sécurité dans les mains du Père. Nous avons une destinée éternelle qui nous attend. Et ce pèlerinage ici, qu'est-ce que c'est les souffrances d'apôtre Paul dit, nos légères afflictions du moment présent ne seraient comparées à la gloire qui nous sera révélée. Ah, c'est extraordinaire. Quelle joie de connaître Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. On va prier. Seigneur, on te remercie pour tant d'amour qui nous a pardonné toutes nos fautes. Merci pour le Fils qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Merci, Père, pour ton amour pour nous. Tu ne nous as pas refusé ton Fils, mais tu l'as livré aussi pour nous. Donne-nous d'être reconnaissants, même dans l'adversité, dans les afflictions. d'être capable de saisir cette vérité dure et pour moi, qui sera contre moi. Sépare-nous avec ta bénédiction. Nous demandons au nom de Jésus. Amen.